Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Samy.
Bonsoir.
Et bienvenue Samy sur l'antenne d'RTL.
Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil à vous. Je vous souhaite une bonne année.
Ah, oh, c'est gentil. Merci à vous, Samy. Bonne année. C'est vrai qu'on.
Merci beaucoup.
On a le. On peut se souhaiter comme ça jusqu'à la fin du mois.
Et je remercie Paul pour sa bienveillance.
Ah, oh, ben ça va lui faire plaisir. Il vous entend. Il est à côté de moi.
Il était formidable.
Bon. Ah, ben écoutez.
Donc. Ça me fait très plaisir de vous avoir depuis le temps que je vous écoute.
C'est vrai? Oui, ça fait longtemps que vous m'écoutez?
Oui, très longtemps, même sur d'autres radios.
Oui,
sans les citer. Voilà, des années.
Ah ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur RTL.
Parce que grâce à vous, je me suis barricadé pour ne pas tomber justement dans des dépressions, parce que j'ai vécu plein de choses et j'ai pas eu le temps en fait de cicatriser. Mes blessures. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous contacter pour vous parler de ma situation actuelle.
Oui.
Je suis marié.
Oui.
Avec une épouse formidable. J'ai deux garçons, l'un de 8 ans et le second de 5 ans.
Oui.
Et c'est mon troisième mariage.
D'accord.
Les deux premiers, ils ne sont pas vraiment conséquents. Enfin, j'ai des enfants avec. J'ai une fille avec la première, 4 filles avec la seconde. Et c'est la première fois que j'ai des garçons. Pour les premiers mariages et le second, je n'ai pas des trucs à raconter. C'était des histoires qui ont eu un début et une fin sans conséquence.
D'accord.
Actuellement, je suis remarié depuis 2010 avec une charmante dame que j'ai rencontrée dans une plage. C'était une rencontre extraordinaire. C'était à l'étranger.
Oui.
Elle m'a rejoint en 2014.
D'accord.
On a entamé une vie conjugale avec des hauts et des bas. Dire plus de bas que de hauts, sérieusement, parce que, au fait, moi, je suis tombé amoureux d'elle. Je ne crois pas que c'est réciproque. Et il n'y a pas eu, au fait, elle n'a pas comblé les besoins que j'avais. Et donc. On a eu plus de bas que de haut. Bon, ça c'est une chose. Après, ce qui est le propos de mon appel, c'est que dans le confinement du printemps, elle a déclenché un trouble mental, un post-maniaque, une bipolarité.
Oui, elle était en phase maniaque.
Exactement.
Pendant cette période.
Et elle m'a fait une crise dans les 10 derniers jours du confinement. Elle n'a pas dormi. Mmh. Elle a passé la nuit à faire des machines à laver, à faire le ménage, à faire tout et n'importe quoi parce qu'elle ne pouvait plus dormir. Après ça, on a eu une grosse dispute.
Oui.
Et j'ai lâché le gros mot « Vas-y, tu te barres, je ne veux plus de toi ». Et elle a entendu que ça. Un jour, je suis rentré un mercredi. C'était le 27 mai, un truc comme ça. Et il n'y avait ni enfant, ni femme, ni habits, ni meubles, ni rien du tout.
Elle était partie.
Elle était partie. Donc, un choc effroyable.
Oui.
Après une journée de travail, je vais au commissariat pour déclarer que mon épouse a quitté le domicile avec mes enfants.
Oui.
Et je la trouve là-bas, assise dans la salle d'attente,
en
faisant des mouvements en avant et en arrière. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, elle se balançait.
Voilà, se balancer, donc un état second.
Oui.
Je m'assois à côté d'elle, je lui dis, écoute...
Vos petits étaient avec elle, les deux petits ?
Non, ils étaient chez une amie.
Ah bon, bah, tant mieux.
Ouais, elle les a mis à l'abri.
Quand même. Elle les avait mis à l'abri.
Ah oui, elle a gardé quand même un peu de lucidité, heureusement.
Oui.
Et donc, je me suis assis à côté d'elle. J'ai dit, écoute, le monde des petits, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne m'a même pas regardé. Elle est partie voir l'accueil du commissariat.
Oui.
Et deux minutes après, même pas, en 30 secondes, je me suis retrouvé en garde à vue.
Oh là là.
En garde à vue, voilà, vous savez ce que c'est. Et donc, le lendemain, il y a eu une confrontation. Donc ça, c'était... Enfin, c'était pas fin mai, c'était fin juin. Je suis désolé.
Non, mais je vous en prie.
Voilà. Donc, pendant la confrontation, la personne qui a fait la confrontation a décidé de me libérer.
Oui.
Voilà, parce qu'il y avait une beaucoup de contradictions.
Oui, ils se sont rendus compte que c'était un peu incohérent, finalement.
Voilà,
oui.
Beaucoup de contradictions, et ils ont senti qu'elle était dans un état second.
Oui.
Parce qu'elle était très, très, très énervée, très excitée.
Oui.
On ne pouvait pas parler avec elle. Oui. Donc, on m'a libérée. Et en rentrant, ben, il n'y avait toujours pas de meubles, rien du tout.
C'est cauchemardesque, hein, pour vous.
Ah non, mais ça, c'est juste... Oui. Fait,
Et ils ont demandé une hospitalisation? Ils ont fait venir un médecin?
Du tout.
Non, il y a
Non, du tout. Bon, elle est repartie. J'ai passé un mois et demi cauchemardesque après, parce qu'elle refusait que je voie mes enfants, que je leur parle, etc. Elle était partie chez un proche à elle,
oui.
Les enfants. Après, j'ai passé un mois et demi, c'était un enfer, parce qu'elle est partie dans le sud avec les enfants, soi-disant pour des vacances. Elle a fait le tour de sa famille et dans un séjour dans le sud, chez une proche, elle a vraiment pété un câble.
Oui.
Et elle est devenue, au fait, pratiquement absente de l'environnement réel.
Oui.
Les enfants sont abandonnés, malgré qu'ils sont chez une famille, mais ils étaient abandonnés, donc je leur parlais pratiquement tous les jours parce que c'est eux qui demandaient à me parler. Oui. Ils avaient besoin de moi.
Oui, ils devaient être angoissés
mais
devant leur maman.
Oui. Donc, dans un état, on dirait des hommes de Cro-Magnon, les cheveux pas coupés, les ongles qui faisaient 5 cm, des blessures, et on avait le petit qui était renversé par un vélo dehors parce qu'il jouait dehors sans surveillance. Enfin.
Oui, donc, elle n'était plus en état de s'en occuper, elle avait trop mal.
Non.
Elle a été hospitalisée, là ?
Non, elle était dans une maison.
Oui, mais on ne l'a pas fait hospitaliser. Elle avait besoin de soins.
À l'époque, rien.
Oui.
C'était en juillet. Oui, c'était le 12 juillet, elle est partie. Oui. Elle est restée un mois et demi là-bas. Elle faisait que se disputer avec sa famille. Parce qu'elle a en fait vécu, quand elle avait 12 ans, elle a vécu là-bas des choses effroyables et... elles sont revenues à la surface.
C'est-à-dire des événements traumatiques.
Des événements très douloureux, si vous voulez, je vous le raconte. Elle a vécu, si vous voulez, de l'infidélité conjugale chez sa famille à l'époque, dans les années 80, qui ont donné, au fait, des enfants illégitimes, hors mariage. Et en voyant une cage d'escalier où il y avait une porte, elle s'est rappelée que la personne en question, elle les mettait dans une cage, elle et d'autres enfants, elle les enfermait là-bas.
Qui, une belle-mère ?
Une tante.
Une tante.
Elle les enfermait là-bas et elle fréquentait une personne qui était l'amie de son mari à l'époque. Et en passant, comme ça, elle m'a raconté, elle m'a dit, quand j'ai vu cette petite porte, je me suis rappelé...
Oui, ça fait ressurgir un souvenir.
Et là, elle a commencé à insulter sa tante pendant des jours et des jours.
Oui, elle était en pleine décompensation. Elle était... Enfin, elle était en train de, comme on dit familièrement, de craquer.
Elle a craqué, exactement.
Mais et personne, enfin, je sais que c'est compliqué parce que d'elle-même, elle avait besoin de soins. Elle a fini par être hospitalisée quand même ou pas?
Mais elle a un problème, elle a une phobie de soins extraordinaire. C'est une personne qui ne va que chez le généraliste. Quand il s'agit de creuser un petit peu chez des professionnels de santé, les spécialistes, elle n'y va pas.
Là, au vu de ce que vous décrivez, enfin...
Ah non, mais après, ça vient, l'hospitalisation, elle est venue après. Donc, quand elle a eu cette crise, elle m'a appelé en urgence un jour, elle m'a dit, écoute, c'était le 2 août, elle m'a dit, je suis en danger de mort, c'est affreux ce que je vis, rapatrie-moi sur Paris. Quand elle m'a dit, je suis en danger de mort, moi j'ai craqué aussi, j'ai appelé le 119, j'ai déclaré que mes enfants, ils sont en danger.
Mais vous avez bien fait, parce que de fait, vos enfants étaient en danger avec une maman qui était aussi mal.
Tout à fait. Donc là, jusque-là, elle me le reproche, ça. Comme quoi j'ai appelé le 119.
Oui, bref, bien sûr, mais bon.
Donc, je l'ai fait rapatrier par un TGV le 2 août à Montparnasse. Je suis parti la chercher quand elle est descendue du TGV, elle est tombée. Elle est tombée, je l'ai prise par le bras avec les enfants, les bagages. On est rentré. On est rentré, elle a parlé pendant 3 heures.
Oui.
Les enfants, ils étaient...
C'était cohérent, ce qu'elle disait ?
C'était cohérent parce qu'il s'agissait de blessures d'enfance non cicatrisées.
Oui, qui remontaient, dont vous n'aviez pas connaissance.
Oh, rien du tout. Alors là, je suis tombée des nues, mais les chocs, j'en ai eu en rafale cet été. Elle m'a raconté qu'elle a été violée dans la ville où elle était. Elle a été violée à l'âge de 12 ans, en partant se balader avec une cousine. Elle m'a raconté aussi l'histoire de sa tante qui était infidèle et que 3 enfants dans cette famille, ils ne sont pas du papa.
Oui. On ne peut pas tout mettre sur le même plan et parfois dans des moments de crise comme ça, parce qu'elle était vraiment en crise aiguë. Il faut un peu pouvoir faire la part des choses sur des souvenirs, hein, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Vous voyez, il faut un peu...
Ah d'accord, donc vous pensez qu'il y a eu...
Ah, moi
non plus,
c'est à l'équipe soignante après d'évaluer ça. Oui. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans un état, si vous parlez de trouble bipolaire, et dans un état en phase maniaque aiguë, c'est-à-dire dans un état de surexcitation, comme vous dites, ça a commencé, elle avait totalement perdu le sommeil, ce qui est une des caractéristiques. Les gens peuvent parfois avoir des états, dans des formes assez graves, proches du délire, entre guillemets.
Ah oui, mais c'est donc, du délire.
Voilà. Donc il faut être prudent sur ce qui émerge, c'est-à-dire que dans ces souvenirs, il peut y avoir des choses qui sont réelles et d'autres qui s'imprègnent du contexte. Enfin, vous voyez, il ne faut pas forcément prendre tout pour argent comptant.
Et comment faire pour vérifier ?
C'est l'équipe soignante, c'est dans le cadre de la thérapie qu'on évalue tout ça.
D'accord. Après ça... après cette nuit, le lendemain, elle se sentait fatiguée. Elle m'a dit, écoute, j'ai les clés de l'appartement de mon frère, je vais me reposer quelques jours, je suis fatiguée. J'ai dit, c'est une très bonne idée, moi je garde les enfants. Va te reposer. Elle est rentrée chez son frère, l'appartement était vide, et elle m'appelle un jour, elle me dit, le lendemain, elle me dit, je reviens plus. Rechoc. Écoute, qu'est-ce que je dois dire aux enfants ? Moi, je suis adulte, je peux supporter, enfin, plus ou moins, mais les enfants, je leur dis quoi ? C'était compliqué. Donc, elle a fait du yo-yo, en fait. Elle est revenue, elle est repartie au moins 3 fois. Donc, la dernière fois qu'elle est repartie, c'était le 25 août. Et 2 jours après, ils l'ont ramassée dehors.
Oui.
Et elle a été hospitalisée.
Et oui, là, d'office, quoi, en fait. D'office. Ils ont vu qu'elle était dans un état tel qu'il fallait des soins.
Oui, d'accord. Alors ce jour-là, moi j'étais à la plage avec mes enfants pour qu'ils vivent un petit peu.
Oui, ils avaient besoin de sécurité après l'été infernal qu'ils avaient passé.
Donc moi j'ai passé 15 jours avec eux dans les plages, dans les parcs, j'ai essayé de leur faire...
Ils posaient des questions, puisque vous me dites quand même 8 ans et 5 ans
Moi je les ai protégés pour qu'ils ne voient rien.
Mais oui, mais quand ils étaient avec leur maman lorsque vous n'étiez pas là...
Ils l'ont vécu, oui. J'y peux rien.
Ils n'en parlaient pas.
Non. Ouais. Du tout. Il parlait que des choses qui étaient agréables. Il y avait un cousin qui avait une piscine. Des fois, il partait chez lui, etc. D'accord. Le reste, comme si ils ont fait un déni aussi de ce qu'ils ont vécu.
Peut-être
comme malheur. Ouais. Mais je suis en train de faire des démarches pour qu'ils voient des psychiatres, des psychologues plutôt.
Bah, oui, et ça serait bien qu'ils puissent leur expliquer en fait que leur maman ne va pas bien, est malade et qu'on va la soigner. Ils ont besoin d'être rassurés.
Oui. J'ai fait les démarches là. On va voir.
C'est bien fait.
Donc après cet épisode d'hospitalisation, donc le jour de son hospitalisation, moi j'étais à la plage, je suis rentré à 19h, doucher les enfants, leur faire manger. J'étais sur Facebook avec ma famille en train de discuter. Et à 11h30, je reçois un appel dans l'hôpital. Il me dit voilà, ma femme a été hospitalisée. Moi je me suis dit bon, elle a un malaise. On m'a dit non, elle est en psychiatrie.
Oui.
Vous devez venir demain pour faire le tiers. Alors moi, j'ignorais ce...
Oui, l'hospitalisation à la demande d'un tiers.
Exactement. Ça. Je vais voir le psychiatre le lendemain. Je fais garder mes enfants par un copain. Je vais le voir, il m'explique, etc. Donc je lui donne un petit peu mon état d'esprit. J'ai dit, écoutez, moi je suis pour qu'elle se soigne. Par contre, m'engager dans un processus comme ça, ça va faire... Ça va faire agir ma femme négativement. Elle va me dire, tu m'as internée. Il me dit, oui, mais si vous ne le faites pas, c'est nous qui le faisons. Oui, et oui. Après, ça va être très compliqué à la sortie, pour la sortir. Donc, moi, je réfléchis deux secondes. Je lui dis, écoutez, moi, je vais signer. Et
puis, vous avez bien fait.
J'ai signé le tiers. Elle a été hospitalisée 14 jours. On se parlait de 3 jours, les premiers 2-3 jours. Et après, j'ai décidé d'aller la voir. On m'a organisé un rendez-vous.
Oui.
Je l'ai vue. J'ai vu surtout la structure. Et ça m'a un petit peu choqué parce que j'ai jamais été dans une structure semblable. Donc, j'ai pensé la sortir. Je l'ai sortie.
Mais avant les 14 jours ?
Non, elle a fait les 14 jours.
Donc, c'est pas beaucoup, 14 jours.
Le temps de faire les démarches et convaincre.
C'est pas assez, mais bon.
Non, c'est pas assez.
Elle avait besoin de soins.
J'ai fait une grosse bêtise.
Ben, vous étiez inquiet, vous ne mesuriez pas la gravité de son état.
Exactement. Mais donc, je l'ai sortie et depuis, je vis un cauchemar.
Ben oui. Mais parce qu'elle est sortie avant, d'abord 14 jours, vu l'état que vous décrivez, c'est pas assez. Et puis on organise surtout la sortie. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes sortent, on les lâche pas comme ça dans la nature.
Non, ils n'ont pas lâché comme ça. Ils l'ont lâché avec un soin.
Oui, un traitement.
Et un suivi en dehors.
Oui, mais elle y va ou elle n'y va pas ?
Avec prose et rendez-vous. Le drame, c'est qu'elle n'a pas pris son soin. Et elle n'a pas été à ses rendez-vous.
Ben oui.
Donc du coup, elle m'a fait des crises à la maison, devant les enfants, sans les enfants. Et elle a rechuté jusqu'à la phase finale, ça veut dire la dépression.
Oui, ben c'est-à-dire que les états maniaques peuvent être suivis, des états de très grande excitation, exaltation, sont suivis après de phases de dépression extrêmement profondes, d'états proches de la mélancolie.
Exactement. Donc elle a passé trois semaines, là, les dernières trois semaines.
À dormir.
À dormir, travailler. Parce qu'elle.
Elle travaille.
Oui, elle travaille, elle a une capacité de travailler.
Qu'est-ce qu'elle fait comme travail ? Vous voulez pas le dire, bon.
Non, c'est juste pour la protéger, quoi.
Oui, non, mais je respecte.
On va dire,
elle est
dans le monde de la formation.
Oui, mais elle peut assurer des formations dans son état ?
Oui, elle est capable, oui. Oui. Parce que c'est des crises, mais quand elle rentre à la maison, elle dort.
Elle est épuisée. Ouais.
Ah non, mais...
Et alors, elle en est où, là, aujourd'hui ? Parce que...
Aujourd'hui, elle en est toujours pas à la prise de traitement. Elle est contre, de toute façon, parce qu'elle est dans le déni total de sa maladie. Elle a eu deux, trois phases raisonnables où elle a accepté qu'elle était malade. Mais
elle a quel âge ?
Elle a 50 ans, cette année.
Et elle n'avait. Vous avez pu parler un peu avec sa famille ? Elle n'avait pas fait d'épisode comme ça par le passé ? Parce
oui,
que c'est surprenant que ça survienne seulement
elle
maintenant.
Elle a eu un épisode douloureuse parce qu'elle était dans un pays où il y a eu du terrorisme et elle est tombée dans un guet-apens de terroristes et elle a été suivie après ça. Parce qu'elle a vu la mort en fait. Elle a vu des gens mourir. Elle avait à l'époque 25 ans.
Oui, donc elle. Oui, donc il y avait un traumatisme là,
ah oui, un traumatisme
majeur. Mais là, en fait, ce que vous me décrivez, malheureusement, vous dites ça a commencé à la fin du premier confinement.
Tout à fait.
Et ça a pesé fortement sur son état de santé. On sait, hein, on sait aujourd'hui que malheureusement, la réalité, il y a une augmentation considérable des demandes de consultation en psychiatrie auxquelles ils ont du mal à faire face. Et beaucoup de troubles dépressifs, de troubles anxieux, d'épisodes suicidaires. Enfin, ça, malheureusement, cette situation sanitaire, on mesure aujourd'hui les impacts que cela a sur le psychisme. Et votre femme avait une fragilité en elle, dont...
C'est quelqu'un de très, très, très fragile.
Ben oui.
Oui, je l'ai connue toujours très fragile, très sensible. Elle n'est pas faible, elle est courageuse.
Oui, mais non, mais ça n'a rien à voir avec la faiblesse. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi apparemment des épisodes traumatiques qui ont réémergé. Et à ce moment-là, la personne n'est plus à même, au fond, elle est un peu à garde. Elle n'est plus à même de faire... le passé et le présent se superposent. Elle est un peu hors de la réalité. Oui.
Exactement.
Quand elle vous appelle... je suis en danger de mort, voyez, on ne sait pas de quoi elle parle au fond.
Elle
ne
se rappelle plus, elle se rappelle plus. Bah,
bien
ça,
sûr. Mais là, est-ce qu'il y a quelqu'un quand même, un interlocuteur, qui pourrait un peu, avec vous, essayer de la convaincre d'avoir un suivi et un traitement?
J'ai appelé cette semaine son frère.
Oui, c'est bien.
Et qu'il a vu pendant un mois et demi, et il sait bien qu'elle délirait. Je l'ai appelé et il va passer dans quelques jours.
Elle est proche de son frère ?
Très proche, c'est des jumeaux en fait, c'est pratiquement des jumeaux.
D'accord.
Ils ont 5 ans de différence, mais c'est vraiment des...
Oui, c'est bien parce qu'il peut la convaincre. Il est conscient de l'état de santé de sa sœur, d'accord.
Et il m'a dit quelque chose au téléphone que j'ignorais en fait, et qu'il m'a caché, et il m'a dit qu'en fait elle était malade depuis longtemps.
Eh oui.
Et donc, moi, j'ai compris que depuis l'adolescence, quoi. Mm. Parce qu'elle m'a raconté un peu son adolescence. C'était quelqu'un de très enfermé sur elle-même. Elle n'avait pas de copine. Sa seule copine, c'était sa poupée, jusqu'à l'âge de 18, 20 ans. Hein. Et c'était quelqu'un de brillant à l'école. Scolarité exemplaire. Très intelligente, mais très enfermée. Et elle vivait, au fait, qu'avec les parents. Et elle dormait avec eux carrément dans le lit, etc. Et c'est ce qu'elle me reprend dans ma famille maintenant. Elle dort avec les enfants dans leur chambre.
Mais vous dormez où ? Ah, donc elle n'est plus dans le lit conjugal ?
Ah, depuis longtemps, hein. Non, mais depuis toujours, en fait. Le premier, elle a dormi avec lui 4 ans. Oui, le second, il est à sa 5e année, et elle dort toujours avec lui. Mais elle trouve, en fait, des excuses pour se disputer, pour aller dormir avec lui.
C'est pas bien pour les
enfants. Moi, j'ai compris, au fait, que...
En fait, elle en a besoin des enfants, ça la rassure.
Elle m'a avoué, elle m'a dit, en pleurs, elle m'a dit, j'ai besoin d'eux plus qu'ils ont besoin de moi.
Oui.
Parce que c'est moi, la maman.
Elle est consciente, oui.
Elle est consciente.
Elle est consciente qu'en fait, elle en a besoin pour se rassurer. Mais pour les enfants, vous avez bien fait de prendre rendez-vous avec un pédopsychiatre parce que...
Oui. En fait, les enfants, c'est moi, leur maman, en fait, en pratique.
Ben, vous êtes un peu...
Et ça, malheureusement, quand je parle aux assistantes sociales, ils ont du mal à le comprendre.
Pourquoi
que c'est
vous
moi,
voyez des assistantes sociales ?
Je fais tout.
Mais pourquoi, là, vous avez vu une assistante sociale ?
Pendant l'été. Pendant l'été,
pendant l'été,
j'étais tout seul.
Quand vous avez contacté le 119 pour
j'ai
dire
contacté
que...
le 119 et j'étais à ma mairie pour l'assistance sociale qui s'occupe des écoles de mon quartier pour qu'elle m'aide dans ma situation parce que j'étais vraiment...
Situation préoccupante, quoi. Les enfants sont avec une maman qui est très mal, qui est en crise.
Voilà. Oui. Donc, je suis tombé sur quelqu'un de charmant.
Oui.
Par contre, les assistants sociaux qui suivent la famille à partir de l'appel du 119, je crois qu'ils m'ont dans le nez.
Ah bon ?
J'ai pas eu un contact facile avec eux. Il n'y a pas eu d'heure. On n'a pas eu.
Oui.
Mais j'ai senti que dans leur façon de me parler, en arrière-plan, un reproche. J'ai pas compris. J'ai pas essayé de comprendre. J'ai dit, voilà, je me suis dit, ça marche pas, c'est comme le psy, hein, on va chez le psy, ça marche.
Oui, il y a des personnes avec qui le contact passe mieux d'emblée. Eux, si vous voulez, ils arrivent, ils reçoivent un signalement, une information préoccupante, il y a un travail d'enquête. Et c'est vrai que eux, leur but, leur objectif, ce sont les enfants. Après, ils essayent d'évaluer ce qui se passe et c'est toujours compliqué dans un couple. Vous voyez, donc peut-être que vous vous êtes senti à un moment à travers leurs questions mises un peu sur la sellette. Ça ne veut
pas
dire.
C'est pas les questions qui m'ont dérangé, c'est leur manière de les
faire.
Poser et leur manière de s'adresser à moi.
Ouais.
Moi, une personne qui ne me regarde pas dans les yeux, je suis un petit peu gêné. Même si elle me dit des choses agréables.
Oui, mais elle prenait des notes peut-être. Ça aussi, j'imagine. Non.
Oui, j'essaie de relativiser.
Non, je comprends, tout ça est très angoissant pour vous, très pénible.
Même pour le 119, l'appel du 119, pour eux, c'était peut-être un petit peu trop exagéré. Sans le dire,
Malheureusement, alors, à leur décharge, ils reçoivent tellement de cas épouvantables. De situations épouvantables de maltraitance, qu'ils ont pu se dire, vous leur expliquiez, vous, clairement les choses, vous leur avez fait part de votre préoccupation, mais ils ont pu dire, oh, il y a peut-être un différend conjugal, et au fond, c'est un père qui est inquiet pour ses enfants, mais sans mesurer l'état de santé, vous voyez, des petits, de la mère, plus exactement. Oui. Donc, bon, écoutez, on ne va pas refaire le passé, d'accord. Vous avez très bien fait de réagir comme ça, Samy.
Ah, oui, oui.
Et maintenant, il faut regarder l'avenir, et essayer de... Il faut vraiment convaincre votre femme, et ce n'est pas simple, et c'est pour ça que c'est bien que vous ayez de l'aide, pour qu'elle, il va falloir qu'elle soit suivie. Et c'est vrai que malheureusement, dans ces pathologies, dans la bipolarité, mais comme dans d'autres troubles psychiatriques, il y a toute une phase où la personne est dans le déni, refuse au fond de voir la réalité. Donc son frère, qui est un frère jumeau, qui la connaît très bien, pourra lui dire avec douceur, mais aussi avec fermeté, la ramener à des épisodes de sa vie où déjà où elle était mal. Et en fait, c'est pas une sanction, c'est pour qu'elle souffre moins. Un traitement permettrait d'équilibrer un peu son humeur, parce qu'elle souffre aussi beaucoup.
Je crois qu'elle est capable de le faire.
Eh oui, bien sûr.
Sa force mentale.
Eh oui, mais ça.
Elle est très très fragile.
Oui.
Et elle a une fierté surdimensionnée, mais c'est pas le moment de la fierté. Moi, je voulais vous poser une autre question sur ma relation avec elle.
Oui.
Parce que quand elle a fait l'épisode aigu, en fait, 3 jours avant que je la sorte, je suis tombé sur une tablette d'enfant et j'ai trouvé au fait qu'elle avait entamé une relation avec son ex qu'elle a connu après son divorce parce qu'elle était déjà mariée une fois. Donc elle a eu quelqu'un dans
d'accord, sa vie. Donc elle est en lien avec cet homme.
Elle est rentrée en contact avec lui, elle a cherché ses coordonnées sur Facebook et elle est rentrée en contact avec lui avec des propos très très blessants pour moi.
Bon, écoutez.
Et donc, je me suis dit, oui, bon, c'est la maladie, ok.
Mais oui.
Après, j'ai découvert qu'ils se sont vus en 2018, pendant un mois et demi, avec les enfants, sans rentrer dans les détails. Je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose entre eux, sincèrement.
Bon, c'est pas le problème, là, actuellement. J'imagine que ça vous blesse beaucoup, tout ça. Mais franchement, au vu de ce que vous m'avez décrit, la priorité, c'est l'état de santé de votre femme. J'imagine que tout ça est très bouleversant pour vous, parce que l'été a été cauchemardesque. Quand un proche, quand son conjoint, ça peut être un enfant, se met à décompenser, c'est-à-dire passer d'un état qui paraît normal à un état complètement confus où on ne reconnaît plus la personne. Pour l'entourage, il y a un temps de flottement, comme vous l'avez eu, parce qu'on ne pense pas à ça dans un premier temps. C'est normal avec ses proches, au fait qu'il y a derrière des troubles psychiques. Bon, aujourd'hui, vous l'avez intégré, vous. Le chemin va être qu'elle, elle accepte. Et là, il va falloir des relais, son frère, vous avez très bien fait, le médecin traitant. Et le but, c'est qu'elle se stabilise, c'est qu'elle aille mieux. Après, il sera toujours temps de voir au niveau de votre couple. Et peut-être que déjà, elle commençait à aller mal. Voyez, et qu'au fond, cet homme, ça a été comme un confident. Voyez, où elle s'est tournée vers lui. Et comme vous dites, il s'est peut-être rien passé, si ce n'est qu'elle avait besoin de se confier, de se tourner un peu vers le passé. Maintenant, tout ça est très lourd à porter pour vous, Samy, oui. Et peut-être que pour vous aussi, ça serait bien que vous soyez un peu aidé. Je sais pas.
J'ai entamé une thérapie.
Bah, c'est bien. Enfin, voilà, avoir quelque chose d'un soutien, parce que tout ça est vraiment très très bouleversant. Et encore une fois, vous savez, des troubles bipolaires bien traités, bien soignés, on peut tout à fait vivre avec. Simplement, là, il y a une crise.
Si elle prend pas de...
Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est en même temps, l'expérience montre que beaucoup de personnes, au début, sont dans un déni de leurs symptômes et pensent qu'ils vont s'en sortir par eux-mêmes. Parce qu'évidemment, la psychiatrie, ça fait peur. Voir des psychiatres prendre un traitement, qui est un traitement à vie, mais qui n'a pas d'effet secondaire majeur et qui est en général bien toléré. Il faut du temps pour retrouver le traitement vraiment approprié à chacun. Et il y a beaucoup de gens qui ont une vie de couple, une vie de famille, une vie professionnelle, parce qu'ils sont bien stabilisés. Là, vous êtes dans la phase, une fois la crise passée, où elle veut reprendre le cours de sa vie, où elle a oublié la plupart des choses. Malheureusement, vous avez tout ça en tête. Et c'est bien de trouver des alliés, comme son frère jumeau. Ça peut être aussi le médecin traitant, pour l'inciter vraiment à prendre ce traitement, pour qu'elle souffre moins aussi. Elle en aura des bénéfices assez rapidement. Bon courage à vous, Samy. C'est bien vous.
Une
dernière question, alors.
Là, elle me reparle aussi de séparation, de divorce, etc., ouais. De prendre un appartement. Comment ouais. Je dois gérer ça?
Oh, bah écoutez, pour le moment, dans cette situation-là, il vaudrait mieux. Je ne sais pas quel est vous. Est-ce que vous avez le désir de vous séparer ou pas?
Pas du tout.
Pas du tout. Donc, il vaudrait mieux calmer le jeu de son côté à elle. Parce que quand une personne est... dans cet état-là d'extrême vulnérabilité, on lui conseille d'éviter des changements de situation. Vous voyez, il faudrait déjà qu'elle se stabilise émotionnellement. Et j'espère que son frère va aller dans ce sens-là en disant, il ne s'agit pas de dire après tout, pourquoi pas, et si vraiment, lorsqu'elle ira mieux, si elle est toujours dans cette optique de se séparer, ben, bon, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Mais là, ça peut être qu'elle va mal et qu'au fond, elle trouve des solutions extérieures. Exactement. Voyez, plutôt que d'essayer de voir qu'en fait, c'est elle qui va mal. Et donc, plutôt que de se dire « c'est moi qui vais mal », elle met ça sur le compte de votre couple, de tas de choses. Donc, pour le moment, il vaut mieux un petit peu calmer le jeu. Et évidemment, c'est bien que vous soyez accompagné parce que c'est bien lourd pour vous, tout ça. Bon courage, Samy.
Merci beaucoup.
Bon courage.
Merci infiniment.
Au revoir.
Au revoir.
RTL.
Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche.
Parlons-nous.